Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne directement le Rwanda pour son soutien à l'offensive du M23. La Belgique aussi durcit le ton contre le Rwanda. Bruxelles appelle à des mesures sévères, notamment le gel de l'accord entre l'Union européenne et le Rwanda sur les matières premières critiques. Conditions de vie difficiles pour les déplacés de Kwamut se trouvant dans la zone de santé de Kikongo à Bagata. Ils ne sont plus assistés par les partenaires humanitaires à cause du mauvais état des routes. L'alerte est du chef d'antenne de Ocha Bandundu, Ngongo Selemani, l'ancienne SOS. Et puis, des centaines de personnes en début de crise d'épilepsie manquent de suivi et meurent souvent à cause de la négligence ou de l'ignorance des familles et de la communauté. Constat du docteur Gloire Matuvova, médecin à Congo Medica Center. C'est à l'occasion de la journée internationale de l'épilepsie célébrée le 10 février. Madame, Messieurs, bonjour. Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte à l'unanimité une résolution condamnant directement le Rwanda pour son soutien à l'offensive du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. La même résolution réclame le retrait immédiat des troupes rwandaises. Pour le Conseil, le M23 doit immédiatement cesser les hostilités, se retirer de toutes les zones sous son contrôle et démanteler les administrations parallèles illégitimes mises en place sur le territoire de la RDC. Nicolas de Rivière, ambassadeur et représentant permanent de la France auprès des Nations Unies, revient ici sur les grandes lignes de cette résolution adoptée hier vendredi, propos choisi par Blaise Makassinandes.
Cette résolution porte un message clair. Il n'y a pas d'issue militaire au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. L'offensive du M23, soutenue par le Rwanda, doit cesser. La priorité va à la conclusion d'un accord de cessez-le-feu effectif, inconditionnel et immédiat. Un retour au dialogue est urgent avec l'appui des médiations régionales. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées. Les forces rwandaises doivent se retirer sans délai du territoire congolais, comme l'ont déjà déclaré le secrétaire général des Nations Unies et les membres de ce Conseil. La MONUSCO doit pouvoir mettre en œuvre son mandat pour le bien des populations civiles, sans être entravée dans ses actions ou sa liberté de mouvement. Cette résolution rappelle enfin le rôle clé des processus de Luanda et Nairobi en vue de trouver une solution politique durable qui passe par le retrait complet des forces rwandaises et le démantèlement des FDLR.
Par ailleurs, la Belgique durcit le ton contre le Rwanda, accusé de soutenir le groupe rebelle M23 qui sévit dans l'est de la RDC. Alors que le M23 continue son expansion dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, Bruxelles appelle à des mesures sévères, à savoir suspension du dialogue sur la sécurité et la défense avec Kigali, gel de l'accord entre l'Union européenne et le Rwanda sur les matières premières critiques et l'arrêt du financement européen à l'armée rwandaise déployée au Mozambique. Écoutez à ce sujet, Maxime Prévost, ministre des Affaires étrangères de la Belgique, dans ses propos choisis par Poli Mouzalia.
Il serait par ailleurs naïf de croire que nous sommes isolés et que nous soyons le seul pays qui souhaite prendre des mesures. Je note par exemple que le groupe international de contact dont nous faisons partie avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Suisse, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et d'autres encore a pris une position très ferme vis-à-vis du Rwanda hier dans son communiqué. Hier, toujours, des voix se sont encore élevées, y compris de pays africains, au Conseil des Nations Unies pour dénoncer la situation et appeler à une réaction de la communauté internationale. Tout ce dossier sera traité, à ma demande, au Conseil Affaires étrangères de lundi prochain, où nous cherchons à avoir une approche collective. J'y défendrai à nouveau l'importance de prendre des sanctions individuelles, de suspendre le dialogue sécurité-défense avec le Rwanda, de suspendre le mémorandum d'entente sur les matières premières critiques ou encore de suspendre le financement de l'armée rwandaise au Mozambique.
Sachez aussi que Bruxelles a convoqué hier l'ambassadeur du Rwanda auprès de l'Union européenne pour exiger des explications sur le rôle de son pays dans la déstabilisation de la région. Détail dans ce reportage de Poli Mouzalia rendu par Gisèle Cage.
Selon plusieurs rapports de l'ONU, l'armée rwandaise soutient activement le M23, un groupe rebelle qui a récemment pris le contrôle de Goma et Bukavu, les capitales provinciales du Nord Kivu et du Sud Kivu. Dans un communiqué consulté par Radio Okapi ce vendredi, l'Union européenne condamne fermement cette offensive, dénonçant une violation du cessez-le-feu issu du processus de Luanda. Bruxelles exige de Kigali le retrait immédiat de ses troupes du territoire congolais et l'arrêt de tout soutien au M23 et aux autres groupes armés. L'Union européenne appelle également toutes les parties au conflit à mettre fin aux hostilités et à reprendre le dialogue. Elle réaffirme son soutien aux efforts africains pour une résolution pacifique de ce conflit qui déchire l'est de la RDC. Les violents affrontements de derniers mois ont provoqué le déplacement de plusieurs milliers de personnes, aggravant une situation humanitaire déjà très fragile.
Entre-temps, sur le terrain au Nord Kivu, le calme est revenu hier à Masisi Centre, en territoire de Masisi, au nord-ouest de la ville de Goma. C'est après des violents combats toute la journée de jeudi, des affrontements qui auraient impliqué les VDP Wazalendo et des éléments de la rébellion M23 AFC. Le bilan provisoire enseigne 2 personnes blessées par balle, outre la paralysie de toutes les activités dans cette agglomération. Récit des faits avec Chris Mukand Matande.
Ces combats ont notamment eu lieu entre le bureau de Médecins sans frontières et le marché situé devant l'hôpital général de référence de Masisi, où des milliers de personnes sont à nouveau réfugiées depuis des jours. Ces propos sont ceux de Stéphane Godibia, chef des programmes de Médecins sans frontières au Nord Kivu, repris dans le communiqué de cette organisation rendu public jeudi. Stéphane Godibia explique que ce matin, l'un de nos collègues qui était en poste dans la base des Médecins sans frontières de Masisi a été très grièvement blessé par balle, touché par l'un des nombreux tirs ayant affecté nos locaux ces dernières semaines. Son pronostic vital est malheureusement engagé. Durant les tirs, un enfant réfugié dans nos locaux a également été légèrement blessé par balle. Nous condamnons fermement cet énième épisode de violence ayant directement affecté une structure humanitaire censée être protégée de tels tirs. Pour conclure, le communiqué paraphrase le chef de programme de Médecins sans frontières à ce terme. Ces incidents violents à répétition sont inacceptables. En dépit de nos appels répétés aux belligérants à protéger les structures sanitaires et humanitaires, la sécurité des patients, du personnel médical et humanitaire n'est clairement pas prise en compte. Le droit humanitaire est foulé aux pieds. Cela doit cesser.
Restons au Nord Kivu. Cette fois, dans le territoire de Walikale, la situation humanitaire et sécuritaire est préoccupante. Une situation aggravée par la menace des rebelles du M23 sur la cité de Pinga, une grande agglomération. Ces rebelles ont occupé le village Rusamambu à une journée de marche de Pinga, ce qui ravive les craintes de la population, indique la société civile locale. Les structures médicales manquent d'approvisionnement en médicaments alors qu'elles enregistrent un afflux des malades et déplacés, d'après la société civile. Sifa Maguru nous en dit plus.
Les territoires de Walikale fait actuellement face à des défis humanitaires, c'est entre autres parce que celui-ci est de plus en plus isolé après l'occupation des axes principaux de Masisi par les rebelles du M23. Plusieurs structures sont en rupture des stocks de médicaments alors qu'elles enregistrent une augmentation des malades, y compris des cas suspects des Mpox. La société civile alerte sur les risques de propagation de cette maladie si aucune précaution n'est prise. Fiston Miso, président de cette structure à Walikale, explique.
La situation sécuritaire, humanitaire, sanitaire continue à se dégrader dans les territoires de Walikale. Et cela est suite aux événements et à la présence des éléments du M23 et Rwanda dans plusieurs territoires dans la forêt du Nord Kivu. Cette situation cause les déplacements massifs de la population, plusieurs violations des droits de l'homme, les violences sexuelles sont enregistrées. Beaucoup de structures sanitaires continuent à enregistrer les cas des maladies et voire même les cas des Mpox. Il y a risque toujours de propagation de cette maladie.
Une partie de ces territoires, notamment certaines localités du groupement Ikobo et Kisimba, sont occupées par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda.
Au sud Kivu voisin, l'insécurité monte d'intensité ces derniers temps dans la majeure partie de la ville de Bukavu. Des bandits munis d'armes à feu volent et tuent la population civile pendant la nuit. Dans certains quartiers, la population exaspérée recourt à la vindicte populaire, une pratique pourtant prohibée. Voici quelques témoignages dans ce reportage.
Toutes les 3 communes de Bukavu sont en proie à l'insécurité, mais jusque-là, Kadutu et Ibanda enregistrent plus de victimes. Les habitants sont débordés.
Il ne passe plus une nuit sans que nous ne soyons pas attaqués par des jeunes voleurs armés. Depuis le samedi passé, après le pillage du marché de Kadutu, jusqu'à aujourd'hui, 20h, 21h, on commence l'opération sans inquiétude.
À Bukavu, tout le monde est unanime que la montée de l'insécurité est une conséquence directe de l'évasion massive à la prison centrale de Bukavu.
Avant-hier, trois familles ont été visitées ici à Bolo, carrière chez moi. On a tué deux personnes et l'autre est grièvement blessé, il est à l'hôpital. La nuit d'hier, Bolo 2, Bolo 3, Bolo 6, Bolo 1er, Mouungu ont été visités aussi par ces mêmes malfrats. Bolo 4 s'est organisé en gêne volontaire patrouillère. Ils ont mis la main sur un bandit et la population l'a lynché, tant ce matin et l'a brûlé vif.
Les armes abandonnées en désordre avant l'occupation de la ville par le M23 et son allié les Rwandais sont aujourd'hui utilisées par les bandits qui assiègent tout Bukavu.
Autre nouvelle, je vous le disais en titre, les déplacés de Kwamut se trouvant dans la zone de santé de Kikongo, dans le territoire de Bagata, sont en difficulté d'être assistés par les partenaires humanitaires à cause des mauvais états des routes. Les routes sont tellement délabrées que les partenaires n'arrivent plus à se rendre dans cette partie de la province du Kwilu, alors que plusieurs projets sont disponibles pour mener les activités en faveur de ces déplacés. C'est le chef d'antenne de Ocha à Bandundu, Ngongo Selemani, qui l'a dit lors du lancement à Bandundu de l'un de ses projets humanitaires. Il plaide auprès du gouvernement provincial pour le désenclavement de ce coin du Kwilu. Ngongo Selemani est au micro de Irène Boma.
Pour ne pas oublier, il devrait aussi qu'on parle de la zone de santé de Kikongo, particulièrement Misai, Fampanda, Fampondo, Fasila, Fatundu, Kikongo. Aujourd'hui, il est difficile d'en parler ici parce que arriver dans ces zones, ça pose, ça devient un parcours de combattants. L'argent qui est sorti couvre aussi ces entités. Mais aujourd'hui, on ne veut pas en parler parce que les partenaires n'y arrivent pas à cause des contraintes logistiques. Il n'y a pas de route. Nous sommes arrivés à cette époque au mois de août et de septembre dans ces localités parce qu'il n'y avait pas de pluie. Pendant cette période de saison de pluie, il n'y a pas moyen que les partenaires puissent y aller. Le seul partenaire qui est arrivé là-bas, il nous vient de nous dire qu'il ne peut pas encore rentrer encore. Ce qui fait que tout le grand nombre de personnes déplacées se trouvant dans ces localités, à l'heure actuelle, restent sans assistance à cause des contraintes d'accès. On voulait profiter pour faire un plaidoyer dans le sens que nous puissions accorder aussi une attention particulière dans le cadre des désenclavements, surtout dans les routes secondaires qui atteignent ces personnes qui vivent dans les besoins.
Restons sur les routes. En Ituri, les embuscades contre les véhicules de transport en commun et de marchandises sont enregistrées chaque jour sur la route nationale numéro 27, surtout dans le territoire de Djougou. Les usagers de cette route sont soit tués, soit pris en otage ou encore dépouillés de leurs biens. Jeudi, 5 personnes enlevées vers Fataki ont eu la vie sauve grâce à l'intervention des autorités coutumières locales. Une situation qui risque d'entraîner des conséquences économiques graves dans la ville de Bounia les jours qui viennent, disent des sources sur place. Le récit de Isaac Remoyope, rendu par Ezekiel Mouzalia.
Au moins une dizaine de véhicules et trois motards sont déjà tombés dans des embuscades des miliciens en l'espace de 2 semaines sur l'axe routier Igabarrière-Fataki sur la RN27. Ils tirent à bout portant sur les engins pour les immobiliser quand ils ne crevent pas leurs pneus ou placent des troncs d'arbres pour bloquer le passage des véhicules. Le dernier cas a été déploré jeudi à Bethléem, à environ 80 km au nord de Bounia. 5 passagers, dont un enfant de 3 ans, ont été pris en otage et acheminés dans leur bastion à Djiwi, à 2 km de la route principale. Ils ont été libérés 4 heures après grâce à l'intervention des notables locaux. Tous leurs biens, marchandises, téléphones, ordinateurs et argent ont été emportés par ces hommes armés. La veille, les membres d'équipage d'un camion ont été également dépouillés de leurs biens après avoir été menacés de mort. Ces différentes attaques ont réduit le trafic sur cette route. Les chauffeurs déplorent l'inefficacité des mesures mises en place par les services de sécurité, ce qui affecte l'économie de la province et le revenu des petits commerçants qui vont se ravitailler en marchandises dans les pays voisins. Ils demandent au gouvernement de traquer ces inciviques pour mettre fin à l'insécurité sur cette route d'intérêt régional. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Dans l'actualité, sachez aussi que l'opposant politique Jean-Marc Kabound, président du parti politique Alliance pour le Changement, a été libéré hier soir de la prison centrale de Makala. Bénéficiaire d'une grâce présidentielle en décembre dernier, l'ancien président intérimaire de l'UDPS et ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale avait été condamné le 13 septembre 2023 à une peine de 7 ans de prison pour outrage au chef de l'État et propagation des faux bruits. D'autres opposants comme Seth Kikuni et Jacqueline Dalla, bénéficiaires également de cette grâce présidentielle, attendent leur libération. Rendons-nous au Maniema. Déjà, l'université Mapan dispose d'un centre de recherche scientifique et aussi un club des juristes environnementalistes. Ce centre dénommé la lunette scientifique servira à réaliser le troisième pilier de l'université qui est la recherche. On écoute à ce sujet le professeur Augustin Ngoumbi, secrétaire général académique à l'université Mapan. Il est au micro de Florence Kizalunga.
Le centre de recherche, c'est pour essayer de réaliser le troisième pilier de l'université, la recherche. Parce que l'université n'est pas là seulement pour enseigner, mais il y a aussi pour la recherche et pour rendre service à la communauté. Alors, ce centre va permettre de réaliser les deux missions, notamment la recherche et les services à la communauté. Le club de leadership, ce sont les associations socio-culturelles étudiantines à vocation scientifique. Elles sont ouvertes aux étudiants des autres universités qui vont souscrire aux dispositions des statuts de ce club de leadership. Demain, ce sont des leçons publiques du droit pénal avec le professeur émérite Nyabirung Mwenesonga pour apprendre sur ce que c'est le droit pénal. Parce que le droit pénal, c'est le droit qui amène quelqu'un au cimetière. Donc, c'est un droit sanctionnateur. Et il faut que tout le monde comprenne ce qui est interdit de ce qui est autorisé. Parce que la connaissance du droit pénal procure la sagesse. Donc, c'est mieux que tout le monde vienne, les praticiens du droit, les théoriciens, la population, tout le monde est invité. Nyabirungu, c'est une espèce en danger critique d'extinction. Nous devons bien suivre ce qu'il nous dit.
Actualité internationale.
Les ministres des Affaires étrangères et les hauts diplomates des principaux pays riches et en développement se sont concentrés sur les conflits mondiaux lors de la dernière journée de leur réunion en Afrique du Sud hier vendredi. Pendant 2 jours à Johannesburg, le groupe des 20 nations a échangé sur les défis mondiaux des guerres incessantes, du changement climatique et de l'insécurité énergétique et alimentaire.
L'invité.
Des centaines de personnes en début de crise d'épilepsie manquent de suivi et meurent souvent à cause de la négligence ou de l'ignorance des familles et de la communauté. C'est ce que révèle Dr Gloire Matuvova, médecin à Congo Medical Center, une structure qui assure des soins aux épileptiques à Kinshasa à l'occasion de la Journée internationale de l'épilepsie célébrée le 10 février. Congo Medical Center organise du 21 au 28 février une campagne de sensibilisation, de consultation neurologique et de prise en charge gratuite de cette maladie. Cette campagne est intitulée « Maladie Ndeke Ezali Kindokite » où l'épilepsie n'est pas liée à la sorcellerie. Docteur Gloire Matuvova s'entretient à ce sujet avec Gloria Lutula.
Bonjour docteur.
Bonjour madame.
Qu'est-ce qui vous motive en fait pour faire cette campagne contre l'épilepsie?
Nous avons remarqué qu'il y a plusieurs personnes qui souffrent de l'épilepsie. Que la population congolaise et surtout nous les Africains nous considérons comme c'était une maladie mythico-religieuse, on l'incrimine beaucoup plus à la sorcellerie et les gens en meurent parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'intérieur du pays, beaucoup plus sont négligés quand ils commencent à faire des crises de l'épilepsie et puis après ils sont abandonnés au moment où il y a un traitement pour les cas de l'épilepsie en RDC, même au monde.
Est-ce qu'il y a vraiment un besoin dans la société?
Oui, le besoin est énorme. Parce que généralement, en RDC, tout ce qui touche les cerveaux, on les considère comme une maladie spirituelle. Or, je me rappelle en 2020, quand on a fait une autre première campagne, nous avons recensé plus de 200 personnes qui étaient non suivies juste dans la commune de Kitambo. Plus de 200 personnes. Au moment où, quand ils font leur crise, leur famille les jeter, les abandonner. Mais jusqu'aujourd'hui, on entend les suivre pour les donner les soins.
Concrètement, pendant la campagne, qu'est-ce qui va être fait?
Pendant la campagne, nous faisons des consultations, d'abord, les consultations de tous les malades. Et pour confirmer le cas, on fait l'EEG pour les malades, c'est l'examen d'électroencéphalogramme, pour voir l'air tracé. Puis nous allons donner des médicaments gratuitement, parce qu'il y a des partenaires qui nous ont soutenus par rapport à cette campagne. À tout le monde qui sont épileptiques, nous allons leur donner des médicaments gratuitement.
et après la campagne?
Actuellement, la prise en charge sera que pendant la campagne. Parce que ce sont des maladies chroniques, parce que les traitements peuvent durer entre 2 ou 3 ans. Parce que c'est chaque mois qu'on doit commencer à suivre. Et comme nous ne serons pas soutenus toute l'année ou tous les 2 ans, donc nous avons que des intrants pour les malades qui vont nous consulter pendant la campagne. La consultation pendant la campagne est gratuite. La consultation est gratuite, les médicaments aussi. Alors les gens qui viendront après la campagne, parce que le mois de février, c'est le mois de l'épilepsie. Donc nous sommes en train de célébrer avec les personnes qui souffrent de l'épilepsie. On leur aide pour prendre plutôt des soins appropriés par rapport à cela. Donc après la campagne, les gens vont commencer à consulter normalement. Mais le suivi sera assuré par nous, mais à faible coût.
Comment identifier une personne qui souffre de l'épilepsie?
Pour l'épilepsie, généralement, c'est manifesté par des crises, des convulsions. La personne va présenter des crises convulsives qui peuvent être tonico-cloniques, ça je vous ai parlé de ça. La personne va tomber, il peut se mordre la langue, il peut faire pipi au lit. Donc une personne qui souffre d'épilepsie sent qu'il doit faire la crise.
Vous pouvez lancer un message pour tous nos auditeurs qui sont en train de vous suivre en ce moment?
Je lance un appel à toute la population kinoise, parce qu'on est à Kinshasa, mais en général la population de la RDC, et que l'épilepsie n'est pas une maladie qui, comme on a surnommé ici, l'épilepsie, maladie Ndekeza Kindokite. C'est pas une maladie mythico-religieuse, c'est juste un trouble neurologique qui est traitable et soignable. Donc, si vous avez une personne qui souffre de l'épilepsie dans votre quartier, dans votre famille, veuillez les amener du 21 au 28 à Congo Medical Center. Il y a un traitement adéquat pour l'épilepsie. Et j'exhorte à tout le monde qui nous suit, du 21 au 28, nous avons une campagne de consultation pour toute personne qui souffre d'épilepsie à Congo Medical Center. Ce centre qui se trouve à Kitambo, sur l'avenue Vivi numéro 23, à la rue Maison-Bou.
Merci.
Notre invité répondait aux questions de Gloria Lutula. Par ici s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.